Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+, les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la Demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité.
Bonjour à tous et merci d'écouter À la Demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à toutes les plateformes SVOD. Je suis Émilie Meunier et en cette dernière semaine de septembre, on va faire le point sur les 5 séries qu'il ne fallait pas manquer en cette rentrée 2021. Alors j'espère tout d'abord que vous avez bien profité de l'été et que vous êtes prêts pour retrouver le chemin du métro boulot dodo. Et pour garder le moral, heureusement qui dit rentrée dit avalanche de nouveautés séries qui redonnent du peps le soir venu. Pour nous, les 5 séries de la rentrée à regarder de toute urgence pour une reprise réussie, si ce n'est pas déjà fait, c'est Clickbait, Only Murders in the Building, Jeune et Gollery, L'Opéra et Germinal. Les journalistes Marine Yelch, Jérémy Mingo, Laurence Gallois et Stéphanie Gorlin sont les invités du podcast pour vous débriefer de ces petites pépites. En fin d'émission, c'est l'acteur Jonathan Lambert à l'affiche de la série Jeune et Gollery qui vous révélera son dernier coup de cœur SVOD. Commençons tout d'abord par une mini-série de 8 épisodes qui promet de vous faire passer votre envie de dormir. Comprendre, vous allez enchaîner les épisodes de manière addictive. Bon, j'avoue, est-ce que c'est vraiment la meilleure série pour arriver frais au travail pour la rentrée ? Non, c'est sûr. Mais ce captivant thriller mis en ligne fin août sur Netflix est l'une des belles surprises de cette fin d'été. Et c'est Marine qui va vous expliquer pourquoi.
Madame Brewer, Madame Brewer, Madame Brewer.
Ce message est adressé au ravisseur de Nick. C'est un mari, un père et un frère. Il est doux, affectueux et bienveillant.
Je t'aime, Ethan.
Vous avez fait une terrible erreur. Laissez-le rentrer à la maison.
Alors l'histoire est simple, en apparence tout du moins, Nick Brewer, un père de famille, est kidnappé et devient l'objet d'une vidéo virale. Dans cette vidéo, le père de famille est accusé de maltraitance envers plusieurs femmes et se voit menacé de mort. À 5 millions de vues sur sa vidéo, il est exécuté. Tic-tac, tic-tac.
Alors oui, moi j'ai adoré, je me suis prise très rapidement au jeu. C'est effectivement hyper addictif et imprévisible. Comme tu le disais, on commence avec l'enlèvement de Nick et la fameuse vidéo où il est accusé d'avoir abusé de plusieurs femmes. Et donc, à 5 millions de vues sur cette vidéo, il sera exécuté par ses ravisseurs.
Cette vidéo contient aucun aveu, c'est une menace de mort.
Ça suffit !
Nick s'est déjà montré violent.
Comme vous pouvez le constater, cet échange est accablant.
Où est-ce que vous avez trouvé ça ?
Donc à partir de là, il y a une véritable chasse à l'homme qui se met en place et tous les protagonistes ne pensent qu'à une chose, c'est retrouver le coupable de ce kidnapping pour faire avancer l'histoire. Chaque épisode adopte le point de vue d'un des personnages de l'intrigue. Ça, j'ai beaucoup aimé d'abord parce qu'il y a un aspect psychologique de chacun qui te permet de mieux les connaître. Et plus le temps passe, plus tout est remis en question. Bon, après, on ne vous en dira pas plus sur l'avancement de l'intrigue, mais vous verrez que votre avis concernant le coupable change sans arrêt. Donc c'est très prenant, et parfois j'avais un peu l'impression d'être dans un livre de Joël Dicker. La série, au-delà de ça, pose aussi pas mal de questions sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est une sorte de bonne claque révélatrice qui nous montre l'envers du décor et les dérives de l'ultra-connexion. De l'usurpation de l'identité aussi, et ce que ça peut engendrer, parce que finalement, c'est le fil rouge, et il est présent jusqu'au bout dans chaque épisode. Par contre, j'ai trouvé la fin un peu tirée par les cheveux. On sent qu'ils ont tout fait pour nous faire durer le suspense jusqu'au bout et pour nous surprendre. Mais bon, on leur pardonne parce que il faut reconnaître que ça se dévore comme un bon polar. Et comme tu le disais au début, vous allez voir que vous allez avoir du mal à ne pas enchaîner les épisodes. Je sais pas ce que toi, t'as pensé de la fin, Émilie ?
Ben oui, la fin, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est pas le meilleur twist de la Terre. Mais bon, ça fait le café, on se laisse quand même prendre jusqu'au bout. Après, moi, j'ai été comme toi, happée par cette histoire. Hein, les masques tombent les uns après les autres. Alors ça, certes, c'est une figure très classique du thriller, mais toujours très efficace. J'ai trouvé ça très malin aussi d'inclure le monde du virtuel comme un personnage à part entière. Et surtout... Vraiment, coup de cœur de retrouver au casting une actrice que j'adore personnellement, Zoé Kazan. Si vous flashez sur elle, n'hésitez pas à regarder ses films aussi disponibles sur les plateformes. Et beaucoup plus si affinité sur Salto, The Big Sick sur Prime Video et Elle s'appelle Ruby sur Disney+. En parlant de la plateforme aux grandes oreilles, place à notre deuxième série chouchoute de cette rentrée, Only Murders in the Building, uniquement les meurtres commis dans l'immeuble en français, nouvelle série policière et humoristique disponible sur Disney+, avec à son casting la chanteuse et ex-enfant star de l'écurie Disney, Selena Gomez.
Dans approximativement 12 minutes, je vais me faire assassiner.
Selon la police, Tim Kono a bien été victime d'un meurtre. Et apparemment, c'est l'œuvre d'un givré dans votre genre.
Je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oui, moi non plus. On devrait faire notre propre podcast. Alors on va y descendre et on va chercher des indices. Vous voulez venir ?
Rendez-vous à New York, où une drôle de bande de voisins, amateurs de faits divers, mène l'enquête sur un crime commis dans l'immeuble, et je laisse Jérémy, qui a craqué sur ce programme, vous en parler.
Eh oui, Émilie, c'est la petite nouveauté de la rentrée sur Disney+, et comme moi, je suis sûr que vous allez vous prendre au jeu. Personnellement, je regarde vraiment les épisodes d'Only Murders in the Building comme si je jouais une partie de Cluedo. Il y a vraiment ce petit côté, c'est le colonel Moutarde dans la cuisine avec une corde, ou non, c'est peut-être dans le salon avec une clé anglaise. On est tous nuls à ce jeu, mais on aime vraiment se mettre dans la peau d'un détective, moi y compris. Et comme toute bonne série policière qui se respecte, on a envie de savoir qui a tué la victime. Aussi, le pitch est complètement décalé et totalement fun. Comment trois inconnus collaborent ensemble pour résoudre une enquête criminelle et viennent ensuite raconter leurs recherches dans un podcast en prenant le risque de 1. De dire n'importe quoi et de 2. De faire obstruction aux policiers chargés de l'affaire. Je trouve ça absolument génial.
Est-ce que je veux m'introduire dans l'appartement d'un mort et fouiller dans ses affaires ? J'ai rien de mieux à faire.
La seule chose qui compte, si nous avons raison, c'est qu'il y a un tueur en liberté dans notre immeuble.
Très bonne réplique, mal interprétée, mais excellente.
On rentre rapidement dans l'action, jusqu'à devenir le quatrième membre de leur petit groupe d'enquêteurs. Et très vite, on comprend que Mabel, Oliver et Charles sont comme nous, de simples amateurs. Le ton d'Only Murders in the Building devient alors rapidement une petite farce, régressive, euphorisante et très très drôle. Il y a évidemment un fossé générationnel qui se crée entre Mabel, incarnée par la chanteuse pop star Selena Gomez, et les deux septuagénaires Oliver et Charles, joués par Steve Martin et Martin Short, tous les deux amis dans la vie. Bref, avec son trio enchanteur et son humour ravageur, Only Murders in the Building devrait aisément vous charmer.
Et cerise sur le gâteau, une saison 2 d'Only Murders in the Building a déjà été commandée. Passons maintenant en mode VF. Et oui, il n'y a pas que les séries anglo-saxonnes dans la vie. En cette rentrée, la jeune comédienne et scénariste française Agnès Hurstel, également chroniqueuse pour France Inter, a sorti le 2 septembre sa série Jeune et Gaulerie sur OCS. Une série récompensée du prix de la meilleure série française à Lille lors du festival Série Mania.
On m'avait tout fait, mais l'enfant caché jamais.
Je suis désolé, hein, je voulais pas que tu la prennes comme ça, mais je peux pas lui présenter n'importe qui.
Est-ce que tu te souviens du gars à qui j'ai roulé une pelle grâce à toi au club en juillet ? Le mec un peu vieux et dépité ?
Il s'appelle Francis, il a 47 ans.
47 ans, il perd ses cheveux déjà ?
Je bande.
S'il te plaît, tu laisses Alma en dehors de tout ça. Hier, à l'école, elle a soulevé sa robe pour faire comme la copine de papa.
Non, mais Prune serait une super belle-mère.
Vous l'aurez compris, cette série de 8 épisodes ne fait pas dans la dentelle et s'attache à raconter la vraie vie, faisant sauter quelques clichés au passage et les barrières générationnelles avec son héroïne Prune, aspirante comique de 25 ans, qui tombe sous le charme d'un père de famille de 47 ans. Et Laurence, justement, ce ton à la fois actuel et décomplexé, c'est exactement ce qui t'a plu.
Et pourtant, Émilie, ce n'est pas facile de me faire rire. Je l'avoue, les séries comiques, c'est pas mon truc, les humoristes non plus, ça me laisse généralement de marbre. Moi, ce que je préfère, c'est plutôt le drame. Et bien là, j'ai trouvé la série qui m'a fait rire cette année, c'est Jeune et Gaulerie. Alors pourtant, à 33 ans, je pense que je suis déjà trop vieille, malheureusement, pour cette série. En tout cas, je suis plus vieille que Prune, son héroïne, et plus mature, enfin, je l'espère, en tout cas. Mais oui, elle m'a fait rire avec ses blagues, c'est vrai, avec le décalage de génération entre elle et Paul, et puis surtout avec son plan de bataille pour faire la guerre à sa belle-fille. Côté humour, les blagues fusent. Prune a une répartie de dingue, comme on voudrait juste tous en avoir. Les dialogues sont ciselés, ils ne laissent rien passer. Le ton est en effet décomplexé, comme son héroïne, et parfois c'est même assez vulgaire. Mais Jeune et Gaulerie, c'est pas juste une série drôle, c'est aussi une série attachante, parce que oui, sous ses dehors parfois un peu agaçantes de « je me crois obligée d'être drôle en permanence », Prune est en fait hyper attachante, ou disons attachiante. Elle a du mal à trouver sa place, elle a peur de grandir, de s'engager pour de bon, et ça, je pense que ce sont des thèmes qui parleront à tout le monde. Alors si vous n'avez pas peur de vous frotter à cette jeune fille à la langue bien acérée, je vous conseille de lancer regarder au moins le premier épisode et vous allez sans doute vous retrouver comme moi à les enchaîner aussi vite que Prune enchaîne ses vannes.
Laurence, tu as un deuxième coup de cœur en cette rentrée et cette fois c'est une série qui te prend par les sentiments. En grande fan de danse que tu es, il s'agit de la nouvelle série L'Opéra, disponible sur OCS depuis le 7 septembre.
Quand on entre ici, c'est uniquement pour la danse.
Il y en a certains qui s'accrochent alors qu'ils devraient juste céder la place.
Je suis vraiment désolée. On doit la récupérer parce qu'on n'en a pas assez.
On m'a écartée comme une pouilleuse et vous savez très bien pourquoi. Tout ça parce que personne n'était prêt à assumer. Assumer qu'une danseuse noire soit distribuée comme signe blanc.
Et oui, Émilie, quand j'ai entendu parler de ce projet de série d'OCS sur l'opéra, c'est vrai que j'avais les yeux qui pétillaient parce que je suis une grande fan de danse et qui plus est du ballet de l'Opéra de Paris. Et la série nous plonge justement dans les coulisses de ce ballet avec trois destins en parallèle, alors des destins fictifs, hein, bien sûr. D'un côté, l'histoire d'une danseuse étoile sur le retour que la direction veut renvoyer. De l'autre, une jeune danseuse noire qui débarque et découvre à la fois le fonctionnement de la maison, son excellence, mais aussi sa dureté et la discrimination qui peut y régner malheureusement. Et enfin, le directeur de la danse qui vient d'arriver et doit faire tourner la boutique tout en louvoyant avec l'aspect politique de sa fonction. Alors, en tant que passionnée de danse, c'est vrai que j'étais forcément très exigeante avec cette série. Et en fait, elle a carrément dépassé mes attentes. J'ai trouvé la série très authentique. Et sur un plan esthétique, c'est très beau visuellement. C'est très bien filmé. Or, filmer la danse, c'est difficile. Et c'est un vrai savoir-faire, mais là, c'est vraiment très réussi.
Et la série a été tournée au Palais Garnier, il me semble.
Alors, en effet, elle a été tournée en partie au Palais Garnier, mais aussi dans d'autres théâtres en Belgique pour reconstituer, du coup, l'opéra parce qu'ils n'ont pas pu tourner toute la série là-bas. Et les reconstitutions sont très belles, que ce soit les décors des studios de répétition, de l'opéra en lui-même et des ballets qui sont mises en scène. Et les acteurs principaux qui ont fait de la danse mais ne sont pas des danseurs professionnels à la base sont vraiment crédibles et ça, pour moi, c'était vraiment très important. Alors oui, un œil expert verra les mille défauts, verra tout de suite qu'Ariane Labende, l'actrice principale, n'est pas une danseuse étoile, mais elle est très crédible. Pour ma part, j'ai découvert cette actrice et je l'ai trouvée épatante dans ce rôle avec un mélange assez rare de fermeté et de fragilité à la fois dans ce personnage.
J'ai besoin de cet endroit. C'est ma maison, ma famille. Je peux pas partir.
Très bonne gestion de crise. C'est le métier qui rentre.
Oh, qu'est-ce qui t'arrive ?
Je sais pas. Comment on fait pour devenir vraiment une grande danseuse ?
S'il y a quelqu'un à qui on a dit c'est pas possible et qui allait quand même, c'est vous.
L'Opéra de Paris, c'est un écrin qui est visuellement est somptueux. Et puis, c'est le lieu parfait pour une histoire pleine de tensions comme celle-ci. La série décrit très bien justement ce que représente cette institution et ses enjeux qui sont contradictoires. D'un côté, préserver une tradition basée sur l'excellence. Et de l'autre, suivre le train de la modernité avec notamment toutes les questions autour de la diversité. Et ce sont des sujets qui ont émergé ces dernières années dans l'actualité de l'opéra. Tout comme celui de la question de la retraite des danseurs d'ailleurs. Et bien sûr, il y a aussi tout le côté de la question politique, les luttes de pouvoir de cette institution. D'ailleurs, le personnage joué par Raphaël Personnaz m'a fait penser au danseur Benjamin Millepied, qui a été directeur de la danse à l'Opéra entre 2014 et 2016 et qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est voulu, mais je penche plutôt quand même pour la deuxième option.
Et cette série, Laurence, est-ce qu'elle est accessible aux non-fans de danse ?
Je pense qu'elle ne s'adresse pas seulement à ceux qui s'intéressent à la danse. Par ses thèmes et sa mise en scène, elle pourra plaire au plus grand nombre. Alors là encore, même si le Lac des Cygnes n'est pas forcément votre tasse de thé, je vous recommande de lancer le premier épisode et je pense que facilement vous allez vous laisser happer par l'histoire, par les personnages et puis forcément par ce décor somptueux. Et c'est le but, je pense, non seulement de démocratiser la danse et l'Opéra de Paris, mais aussi de proposer à l'international une série de prestige française à laquelle on souhaite Émilie un destin similaire à celui de Lupin. Et d'ailleurs, OCS a déjà commandé la deuxième saison de l'Opéra.
Enfin, on ne pouvait pas évoquer les séries françaises de la rentrée sans convier Stéphanie Gorlin pour nous parler de Germinal, nouvelle adaptation de l'œuvre d'Émilie Zola sur Salto.
Camarades, vos revendications sont justes et la justice ne se demande pas, elle s'impose.
Les mineurs sont en route, des centaines de toute la région.
Seul un idiot quitte la partie avant d'encaisser ses gains.
On n'a pas fait tous ces sacrifices pour rien. On va jusqu'au bout parce qu'on n'a plus rien à perdre.
T'as dit que c'était la guerre, tu te rappelles ?
La voilà la guerre, la voilà.
La seule solution pour que les patrons nous respectent, c'est l'union des mineurs. Alors maintenant, vous avez le choix. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les patrons.
Cette mini-série événement récompensée par le prix du public au festival Sérimania a mis les petits plats dans les grands pour convaincre le public.
Oui, Émilie, il faut dire que pour cette coproduction, France Télévisions, Salto et La Rai ont déboursé une douzaine de millions d'euros. Mais bon, il faut se donner les moyens de ses ambitions, et là, c'est vraiment réussi.
Cette série de 6 épisodes a réuni aussi 50 personnages, 2000 figurants, sans oublier les 40 décors construits pour l'occasion. En effet, c'est un gros chantier, tout pour nous replonger dans une ambiance bien particulière.
Oui, retour à la fin du 19e, donc, dans les mines de charbon du nord de la France, à côté des mineurs, dont les conditions de vie sont absolument misérables. L'abaissement de leur salaire et le durcissement de leurs conditions de travail en général les poussent à la grève. Et un bras de fer terrible s'engage avec la compagnie qui les emploie.
Et donc, est-ce que tu as été charmée, Stéphanie, par cette série ?
Absolument. Alors ok, parfois le vocabulaire un peu trop moderne peut faire tiquer, comme les maquillages un peu trop bien faits, mais au final, cette adaptation du Germinal de Zola bénéficie d'une mise en scène aussi élégante que rythmée et est servie par des acteurs impeccables et qu'on adore. Alix Poisson, Guillaume de Tonquédec, Samy Boisgila, Thierry Godard, et ça c'est vraiment chouette.
Place maintenant à l'acteur Jonathan Lambert, le vieux dans Jeune et Gaulerie. C'est lui et son conseil série pour cette rentrée. C'est La méthode Kominsky, la série de Netflix avec Michael Douglas.
C'est une série qui m'a... j'ai été très, très ému, ouais, très touché. D'abord, je suis fan de Michael Douglas déjà, donc la moitié du travail était faite. Mais je trouve que ça aborde de manière intelligente... Alors, c'est peut-être aussi un peu boutique, comme on dit, parce que c'est un peu sur le métier de comédien et les échecs et le temps qui passe, bon, j'ai pas leur âge, mais j'ai trouvé ça formidable, formidable.
Pour résumer, si vous voulez faire le plein de séries en cette reprise, on vous conseille fortement de vous ruer devant Clickbait sur Netflix, Only Murders in the Building sur Disney+, Jeune et Gaulerie et L'Opéra sur OCS et Germinal sur Salto. C'est déjà la fin de ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux. Merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande avec toujours plus de programmes à découvrir sur les plateformes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.